Eh bien, c'est parti. Nous allons tout de suite démarrer la deuxième table ronde intitulée « Sobrement, la vidéothèque au temps du numérique ». Tout un programme qui va être discuté par nos quatre invités.
Bonjour à tous. Donc, il est temps de commencer cette dernière table ronde où on est un petit peu limité par le temps. Donc, je vais raccourcir mon introduction. Dire que la question de la VOD... Enfin, de la vidéothèque au temps du numérique et en particulier de la VOD a été traitée en filigrane au début de cette journée, puis de plus en plus concrètement. Donc maintenant, il est temps de voir un petit peu cette question de la VOD en bibliothèque au travers de différentes expériences. Donc je vais présenter les différentes intervenantes de cette table ronde en commençant par la gauche. Donc Marion Didier représente le réseau des bibliothèques municipales de Grenoble, où elle coordonne les différents secteurs cinéma du réseau, dont CinéVOD, l'offre des bibliothèques de Grenoble, construite avec Medialib Adavision. Voilà. À côté, Mathilde Garcin, donc, qui est directrice de la médiathèque de l'Alpha pour le Grand Angoulême, et qui nous présentera l'offre CVS, auquel le Grand Alpha est abonné. Et enfin, Emmanuel Sru est chargé de collection audiovisuel et du secteur cinéma à l'Université Paris 8 et nous présentera notamment le service VOD Paris 8 aussi construit avec Medialib Adavision. Voilà. Et donc de mon côté, je suis Alicia Léonie Barella, je travaille à l'Université Paris 1. J'ai fait mon mémoire il y a quelques années sur la VOD en bibliothèque et depuis un an, j'ai repris contact avec ce sujet puisque je suis chargée de la négociation Couperin, donc c'est l'équivalent de Carrel en bibliothèque universitaire, Couperin pour l'offre de la médiathèque numérique. Donc à nous toutes, on représente, on va essayer de représenter à peu près toutes les offres de VOD à destination des bibliothèques qui existent. Donc Adavision, CVS et la médiathèque numérique qui comporte deux volets. Arte VOD, Universciné et Les Yeux d'Oc. Voilà. Donc, on essaiera de voir tout ça ensemble. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on représente différents types de bibliothèques. Donc, bibliothèque publique avec le réseau de Grenoble et qui fera aussi office de. Qui nous présente. Enfin, qui est particulièrement intéressante parce que précurseur en termes de VOD. Avec le Grand Alpha, on aura le regard de la bibliothèque troisième lieu et de la place de la VOD dans ce type de bibliothèque. Et pour Paris 8 et puis un petit peu peut-être Paris 1, on verra aussi ce sera intéressant de voir la place du cinéma dans les bibliothèques universitaires et donc ça permet de voir la question de la VOD dans cette typologie variée de bibliothèques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a décidé de diviser cette table ronde en deux temps. Dans un premier temps, on va présenter les différentes offres, donc à la fois le contenu et les modèles économiques liés aux offres. Et dans un deuxième temps, on verra plus en détail tout ce qui concerne les usages, la médiation et la valorisation des contenus. Et à l'issue de ces deux temps, on laissera la parole au public pour que... permettre une table ronde peut-être un peu fluide. Donc, on vous préviendra de toute façon quand vous pourrez poser des questions. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Marion pour sa présentation de CinéVOD. Et en même temps, je vais montrer la plateforme sur le grand écran. Merci.
Bonjour. Les bibliothèques de Grenoble ont une histoire assez longue avec la VOD maintenant, puisqu'on était un peu précurseur depuis plusieurs années. Dès 2002, on avait des films de la BPI en accès sur des ordinateurs dans les bibliothèques. Ensuite, en 2007, on a essayé l'offre Arte VOD à l'époque, donc c'était il y a déjà 10 ans. Puis en 2010, oui, Arte VOD, ça dure à peu près 3 ans. En 2010, on a développé notre propre plateforme de films en VOD, avec des films Adavision et des films locaux, ce qui est notre particularité, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et depuis octobre 2014, on a basculé sur l'offre Medialib Adavision, donc avec la structure Medialib pour le site, en quelque sorte, et les films qu'on achète chez Adavision. Donc en fait, c'est une plateforme qui regroupe CinéVOD, voilà. Ça regroupe actuellement à peu près 750 films. Alors il y a des films donc on achète titre à titre, donc dans le catalogue Adavision, donc des fictions, des documentaires, du cinéma jeune public, des séries un petit peu. Donc voilà, ce sont des titres qu'on acquiert pour entre 3 et 5 ans à peu près. C'est la durée de vie estimée d'un DVD, donc c'est le même principe pour les fichiers numériques, et donc qu'on efface au bout de 5 ans, enfin au bout du temps imparti, si c'est 3, 5 ou 4 ans, qu'on efface et qu'on peut éventuellement racheter si on a envie. Pendant cette durée de temps dont on dispose, ils peuvent être vus à l'infini, en quelque sorte. Donc voilà, ça c'était pour la partie Adavision, mais cette plateforme Medialib nous permet aussi de mettre nos propres films en accès libre, parce que donc les films Adavision qui sont de la fiction, etc., sont pour les abonnés des bibliothèques de Grenoble qui rentrent leurs identifiants pour se connecter, et les autres, donc voilà, Vue d'ici et les conférences. Donc Vue d'ici, c'est une collection de films de réalisateurs locaux grenoblois, Isère, Dauphiné, un peu plus large, avec des choses assez anciennes. Il y a des films des années 20, des films des années 2016 même, je crois que j'en ai rentré un il n'y a pas longtemps. Donc avec un panel de films qui rendent un peu compte de la diversité des réalisateurs et des boîtes de production qu'il y a pu avoir dans notre région. Donc ça, c'est en accès libre. N'importe qui peut aller voir ces films-là. On a aussi une partie des conférences filmées dans les bibliothèques qui sont aussi en accès libre. C'est un peu ce qu'on appelle les sessions de rattrapage. Enfin, c'est un peu le terme utilisé actuellement. Entre autres, des cycles de conférences sur une heure de psy par mois ou Tout comprendre, qui sont des... Voilà. Donc c'est des conférences qui ont beaucoup, beaucoup de succès et qui font souvent salle pleine. Donc ils sont filmés, puis mises en ligne après aussi... sur CinéVOD, donc. Il y a aussi voilà, des rencontres avec des auteurs lors des différents événements littéraires ou culturels des bibliothèques. Voilà, c'est parti en accès libre. On rencontre un succès certain. Et entre autres, les films locaux qui sont assez connus des amateurs de films d'archives ou du patrimoine, hein, tout simplement. Et qui donc, voilà, au niveau du nombre de visionnements, c'est assez intéressant. Voilà, que dire de plus ? Enfin, il y a tellement de choses à dire, c'est plutôt ça. Nous, on a choisi, on en parle maintenant de pourquoi, de modèle économique et tout ça, l'organisation. Donc, on a choisi cette offre-là. Donc, Adavision, ils ont une offre. De fiction qui est assez... Ça ne fait pas autant rêver que la médiathèque numérique ou que, voilà, que RTVOD. On est bien d'accord là-dessus. Ce sont des films qui ne sont pas forcément récents. Il n'y a pas les grandes nouveautés au catalogue. Par contre, nous, ce qui nous intéressait, c'était qu'on pouvait choisir ce qu'on mettait dans notre plateforme. Économiquement parlant, on sait où on va parce que on achète les films comme si c'était des supports DVD. Voilà, on l'achète une bonne fois pour toutes. On l'a pour 5 ans, certes, mais sur l'année, moi, j'ai un budget et je sais où je vais. Que le film soit vu 0 fois ou 300 fois, à la fin, ça m'aura coûté le même prix. Donc, c'était important pour nous à ce niveau-là, financièrement. C'est des notices chaque film a une notice qu'on importe dans notre OPAC. Et sur notre portail numérique. Donc voilà, on maîtrise notre offre, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres offres CVS ou médiathèque numérique, mais voilà, ça, les avantages de ces inconvénients, je ne critique pas les autres, loin de là. voilà, et en termes d'organisation, donc on est une dizaine de vidéothécaires à Grenoble. beaucoup font plein d'autres choses que s'occuper de la vidéo. Hein. Ils ont une partie vidéo, plus les BD, plus les livres jeunesse, plus etc. Mais en tout, il y a 10 acquéreurs de vidéos. Moi, je coordonne un peu tout ce monde-là, que ce soit pour les projections, etc. Et entre autres pour CinéVOD, pour que chacun participe à remplir des paniers de commandes. Et pour ensuite faire des sélections, faire des recommandations, etc. Mais ça, c'est plus dans la partie médiation qu'on verra plus tard, je pense. Mais voilà.
Merci. J'enchaîne. Donc, en ce qui concerne l'alpha, alors vous allez voir, j'espère que mon intervention ne va pas être trop frustrante. Je vais plutôt soulever plein de questions et vous présenter plutôt quelque chose en devenir que quelque chose de déjà réalisé. L'Alpha est donc la médiathèque communautaire de Grand Angoulême qui a ouvert ses portes en décembre 2015, qui a donc un peu plus d'un an de fonctionnement. On est encore vraiment sur une phase de lancement. L'équipe se débat encore beaucoup avec les réalités franchement matérielles du quotidien. Nous sommes notamment un peu dépassés par notre succès en termes de prêts de documents. Les objectifs étaient fixés à 400 000 prêts par an. Nous en avons fait plus de 577 000 l'année dernière. Donc voilà, il y a du quotidien. Donc en termes, le numérique existe. Il existe à l'Alpha. Il a même existé avant l'Alpha. Puisque l'Alpha gère aussi le réseau informatique commun à cette médiathèque communautaire et à 8 médiathèques municipales de l'agglomération de Grand Angoulême. Donc le numérique existe, c'est une offre qui est CVS, donc qui est une offre de flux. Je n'ai pas pris la peine de regarder le nombre de références, mais on est en revanche là sur un nombre important. En revanche, effectivement, nous ne maîtrisons pas ce qu'il y a. Nous ne maîtrisons pas non plus, enfin, pas complètement, et on en parlera beaucoup plus tout à l'heure, comment nous mettons les choses en valeur. Mais là, à titre d'exemple, j'ai affiché, quand vous allez donc sur les médiathèques numériques de l'Alpha, vous cliquez sur l'onglet cinéma et vous tombez sur ça. Et je ne pense pas que ce soit mes équipes qui aient mis ça en place, notamment la référence, si vous voulez bien juste descendre un tout petit peu. Là, on est clairement sur une mise en valeur CVS et pas du tout une mise en valeur de bibliothécaire. Néanmoins, l'offre a le mérite d'exister. Après, en termes de modèle économique, on est sur des accès, des ressources qui sont en accès libre, mais pas en VOD, c'est plus sur les autres contenus, livres numériques et presse, et des contenus qui sont dits payants. En fait, quand l'utilisateur, quand l'abonné consulte ce contenu, nous avons un système de jetons, nous achetons X jetons à CVS par an, et à chaque fois qu'un abonné visionne un film, hop, il y a un jeton qui s'en va. Nous avons donc, pour ces contenus dits payants, nous avons limité à 4 visionnages par mois par abonné. Ce qui peut paraître un peu inquiétant, et en même temps, donc ce volume a été calculé en fonction du budget que nous étions capables de consacrer. Et en même temps, pour une offre d'une médiathèque en phase de lancement, ce n'est pas inintéressant, parce qu'on le verra en termes de chiffres de fréquentation. Pour l'instant, nous ne dépensons pas du tout notre budget. On est, en termes d'usage, il y a énormément de progrès à faire. Et pour finir sur les aspects d'organisation, là aussi, c'est le reflet d'une organisation qui est encore en gestation. Donc, l'organisation de l'Alpha n'est ni par support, ni par type de public. On est par espace thématique. Il y a 3 grands espaces documentaires à l'Alpha. Le premier s'appelle « Imaginer ». Il rassemble tous les documents jeunesse, fiction, documentaire, et tout ce qui a trait à la littérature adulte, fiction et essais sur la littérature. Premier espace, donc imaginé. Deuxième espace, créé, espace dédié à la bande dessinée, au cinéma, à la musique, et parce qu'il fallait bien trouver de la place aux beaux-arts et au sport. À mon avis, cela, c'est parce que ce sont les réalités des mètres carrés. Dernier espace, l'espace d'y comprendre, qui est un espace documentaire classique, enfin qui se veut classique, qui mélange quand même tous les supports. On est dans un univers plus... je ne vais pas dire bibliothèque d'études, parce qu'on reste quand même sur des documents extrêmement grand public, mais vraiment pour s'informer. Mais en ce qui concerne les ressources numériques, pour l'instant, les collègues qui s'occupent de constituer les fonds de ces collections, pour chacun de ces espaces, finalement ne s'emparent encore que très très peu de la question des ressources numériques. Et ces ressources numériques sont encore gérées par un pôle au nom poétique de pôle logistique, qui gère notamment tout ce qui a trait à l'informatique. Donc là, c'est quelque chose qui est en gestation. On a un organigramme un peu cible, qui, en tout cas un organigramme de projet, qui identifie plutôt un pôle des cultures numériques avec, dans lequel nous souhaiterions pouvoir rassembler la question du jeu vidéo, la question des ressources numériques, sur place et à distance, de manière plus générale. Je m'arrête là.
Merci. Donc Paris 8, l'université de Paris 8 est située à Saint-Denis, donc au nord de Paris. Merci pour le micro. Elle compte 22 000 étudiants. C'est l'héritière, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire des universités, c'est l'héritière de Vincennes, donc de 68 au début des années 80. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'à Vincennes a été créé le premier département de cinéma pour les universités. Donc on a ouvert le service de VOD, donc il s'appelle tout simplement VOD Paris 8, en novembre 2016, donc c'est tout récent. Donc ce service ne répondait pas à une attente particulière, ni des étudiants, ni des enseignants, on n'avait pas de demande en ce sens-là. C'était pas pour nous un produit d'appel, puisqu'on a une collection de DVD d'à peu près 9000 documents qui constituent 15% des prêts de l'ensemble de la bibliothèque. Donc voilà, c'était satisfaisant. On a une salle de consultation où il y a à peu près 800 consultations par mois, donc c'est une salle qui marche très bien. Donc voilà, j'encourage les nouvelles bibliothèques universitaires qui ont des appartements audiovisuel en tout cas, à créer des espaces de cette sorte, parce que ça rend de grands services aux étudiants. Et c'était plutôt pour créer, on va dire, un service un peu dans le move, quoi. Un service numérique de plus. Mais évidemment, on savait que le public était là, puisqu'il y a un UFR d'art avec 4000 étudiants, dont 1000 étudiants en cinéma, donc c'était quand même notre public privilégié. On avait décidé assez vite, une fois qu'on avait eu fait à peu près le tour des plateformes qui vous sont proposées, de choisir une plateforme qui proposait du titre à titre, parce que, voilà, un peu classiquement, on voulait pouvoir constituer nous-mêmes notre collection. Donc on l'a écrit très clairement dans le marché. Et évidemment, c'est Adavision qui a remporté le marché, puisque c'était la seule à proposer ce genre de services. Aujourd'hui, donc, on a démarré avec 300 films, donc moitié documentaire, moitié fiction. Aujourd'hui, on en a 600, donc on allait un peu vite, à mon avis, mais on pourra revenir dessus. Avec ce que vous a dit Marion, c'est toujours les mêmes conditions. Peut-être que ce que... Enfin, nous, on a choisi l'offre la plus basse en termes budgétaires et puis d'adhérents possibles. Donc, c'est 3000 adhérents possibles pour 5 heures de visionnement par semaine, en sachant que le compteur se remet à zéro le dimanche soir à minuit. Voilà, on a un budget de 25 000 euros annuels. Et pour un marché sur 2 ans, donc au bout de 2 ans, on fera le bilan et on verra si on continue, si voilà. Par rapport à l'offre de films, alors le catalogue est pas en effet un catalogue de rêve. On essaye de chercher un peu parfois un peu, comment dire, la politique documentaire d'Adavision, la trouve pas forcément. Donc quand on présente le catalogue aux étudiants, on leur dit c'est complémentaire à la collection DVD. Certains films sont en double, donc quand un DVD est emprunté, c'est pratique, vous pouvez le regarder en DVD. Mais il y a aussi des choses que vous ne trouverez pas en DVD. Mais on est bien incapable aujourd'hui d'expliquer voilà, l'axe éditorial qu'on a choisi pour cette plateforme. Et concernant donc, le choix de ces films, à Paris 8, c'est, je ne sais pas si c'est une particularité, en tout cas c'est un choix qui a été réalisé il y a quelques années. Chaque acquéreur de la bibliothèque, donc je crois qu'on est à peu près 20-25 peut-être, a un ou plusieurs secteurs documentaires et il achète tout support, donc aussi bien livres imprimés, e-book, choix des périodiques, DVD et donc maintenant film en VOD, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes puisque à chaque fois il faut se familiariser avec la plateforme, donc la plateforme d'e-book, la plateforme de VOD. Et c'est vrai qu'il faut quand même avoir un minimum de connaissances dans le domaine, donc pour les documentaires en tout cas, de l'offre qui est faite. Et alors, ça marche beaucoup sur la bonne volonté des individus. Donc certains s'intéressent, vont par exemple au cinéma du réel. On va dire certains, très peu en effet, en fait. Et donc là, dernièrement, j'ai eu tendance à faire des paniers pour les autres acquéreurs et à leur proposer. Et après, ils validaient. En général, ils valident de toute façon. Mais c'est vrai que c'est des choses qui prennent du temps et qui ont besoin de la part des responsables audiovisuels ou responsables du cinéma de pédagogie envers les collègues. En fait, c'est presque plus que de pédagogie envers les étudiants, puisque les étudiants, en tout cas en cinéma, sont formés par les enseignants. Et après... Enfin, on pourra aussi en reparler après, mais nous, notre travail, à mon avis, pour la VO2, ça serait plus justement d'élargir un peu le public à d'autres étudiants, puisqu'ils fréquentent aussi l'espace audiovisuel, évidemment.
Donc, je vais conclure avec l'offre qui est peut-être celle que vous connaissez le plus, donc celle de la médiathèque numérique. Donc, en sachant, comme je vous l'ai dit au début, que... Moi, je ne pratique pas forcément, je négocie l'offre, mais ma bibliothèque à moi n'est pas abonnée. Donc ce que je vais faire là, c'est vous présenter le contenu de cette offre, mais je ne pourrai pas forcément répondre à toutes vos questions sur comment ça se passe, sur l'organisation du travail que ça peut impliquer. Très rapidement, donc, la médiathèque numérique, donc, c'est un service d'Arte qui propose 4 services. Donc, pour commencer, des services liés à la bande dessinée, aux livres, ou qui proposent des parcours culturels. Donc ça, on ne revient pas dessus. Mais également, donc, des services de VOD. Donc, comme je vous l'ai dit, d'une part, Arte et Univers Ciné, et d'autre part, Les Yeux d'Oc. Donc, si on commence par Les Yeux d'Oc, que je vais présenter très rapidement, mais vous avez vu la bande-annonce juste avant. Donc, ce sont les œuvres issues du catalogue national de films documentaires de la BPI, et qui, sauf erreur de ma part, à la différence de toutes les autres plateformes de VOD, inclut des droits de projection publique non commerciale. Il me semble que toutes les autres, on est dans de la projection sur place.
Individuel.
Oui. Pas sur place. Ou dans l'ensemble de la bibliothèque. Ça dépend. Ça va dépendre. On pourra en reparler dans la deuxième partie. Et pour ce qui est du modèle économique, donc de toute façon, vous avez toutes les infos dans le petit livret qu'on vous a donné, mais donc c'est le principe d'un achat de forfait de visionnage. Je ne dis pas de bêtises, tout va bien. Et donc, pour passer à l'autre service de VOD, donc c'est celui qui est affiché là, donc c'est l'offre de Arte et Univers Ciné. Donc là, on est sur une plateforme de à peu près 4000 programmes, dont à peu près, donc, grosso modo, moitié cinéma, moitié cinéma-série, moitié documentaire. Donc évidemment, comme son nom l'indique, des catalogues Arte et Univers Ciné. Et alors là, donc, à la différence de ce que Marion disait au début, c'est essentiellement des films récents. J'avais regardé un petit peu sur la chronologie, des films. C'est essentiellement des films des années 2000. Donc, ce qui est bien, enfin, ce qui présente des avantages, mais aussi l'inconvénient, c'est que, en termes de classique, ça manque aussi... il manque du contenu. On pourra rentrer après dans le détail sur les questions, si vous le souhaitez. Les possibilités pour les usagers, c'est streaming ou téléchargement temporaire. Et enfin, pour ce qui est de la question épineuse du modèle tarifaire, donc le principe, c'est qu'il y a deux possibilités. D'une part, un paiement à l'acte, donc c'est-à-dire qu'on achète un crédit de visionnage pour un nombre illimité d'abonnés, ou un abonnement annuel, mais qui, lui, va être limité à la fois par un nombre maximum d'inscrits et par un plafond de visionnage. Donc dans les deux cas, de toute façon, les bibliothèques sont en général obligées de fixer un quota de visionnage par usager, comme c'était le cas aussi au Grand Angoulême. Voilà pour une présentation très rapide de l'offre de la médiathèque numérique. Donc on va ouvrir la phase des questions. Est-ce que vous avez d'emblée des questions, en sachant que je ne vois pas très bien? Alors, pour commencer, en attendant peut-être les langues, si on a
une question.
Ah, bon, bah très bien, allez-y.
Normalement, vous m'entendez? Juste par rapport à la première intervention, donc depuis Grenoble, j'avais une question sur les notices que vous importez dans l'OPAC. Ça m'intéresse bien, puisque nous, à Bègles, nous sommes à la métropole de... Bordeaux Métropole est abonné à la médiathèque numérique, donc nous bénéficions de ce service et nous en faisons bénéficier nos usagers. Mais par contre, les notices des films ne sont pas du tout dans l'OPAC, ce qui est très dommage pour faire des recherches, ça complique un petit peu. Donc ce que vous avez dit là m'a interpellée. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît?
Je crois qu'à Paris 8, par contre, vous n'avez pas les notices dans l'OPAC. Alors, on est sur l'offre Adavision, hein, donc médiathèque numérique. Du coup, je ne sais pas vraiment comment ça marche, si vous pouvez avoir les notices ou pas. Mais...
Pour le cas d'Adavision, oui, ça m'intéresse.
Voilà. Donc, tout simplement, en fait, j'ai sur le site, à côté de ma facture, j'ai un fichier à télécharger avec les notices qui sont mises ensuite par mon service informatique en ligne. Donc, sur ces notices, ensuite, je peux... rajouter du coup l'URL de la vidéo directe, donc les usagers sont sur la notice sur l'OPAC et peuvent directement accéder au film. Et si on a le doublon en DVD, on met aussi le lien de la version numérique pour que ça les renvoie vers la plateforme de VOD. Mais apparemment, nous, on est chez Portfolio en termes d'OPAC, etc. Et Paris 8 sont sur une autre...
Nous, on est sur Coa, mais on a fait le choix pour l'instant de ne pas signaler les films dans le catalogue pour une question de travail à faire supplémentaire. Et on s'est dit que si d'ici un an, on voyait que la plateforme n'avait pas un succès tel qu'on l'imaginait, à ce moment-là, on mettrait sans doute les notices dans le catalogue.
Une autre question, pardon, qui s'adresse à vous quatre. Est-ce qu'il y a moyen de connaître le nombre de consultations par film? Est-ce que vous avez cela dans vos logiciels?
Juste
dans vos logiciels?
Une petite chose sur la question précédente. Normalement, il faudrait recreuser. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont plus creusé la question, mais normalement, la médiathèque numérique peut fournir un export de notice marque. Enfin, n'importe. C'est un service proposé par la médiathèque numérique. Donc, je ne sais pas si ça...
Vous pouvez les intégrer sur Coa,
voilà.
Donc, ça dépend des logiciels, alors,
Je pense qu'il y a
si je comprends bien. D'accord. Merci.
Donc, à creuser avec...
Après, comme c'est des films... comme c'est du flux, votre catalogue va peut-être être... Il y aura beaucoup de bruit, peut-être pour des films que vous n'avez plus, non? Enfin, je ne sais pas.
J'imagine qu'une fois que les films disparaissent de votre abonnement, en quelque sorte, la notice disparaît.
Alors non, nous, on les efface manuellement. On les enlève manuellement. C'est pas lié. Donc après, mais parce que je sais ce que j'enlève, puisque c'est moi qui les supprime à la fin des droits.
D'accord.
Chez la médiathèque numérique, du coup, si vous ne savez pas ce qui arrive et disparaît du catalogue, je ne sais pas comment vous pouvez faire avec votre...
Je pense que techniquement, il va y avoir moyen de...
Si je peux me permettre, il n'y a pas de problème, hein, puisque c'est un web service.
Donc ça se fait tout seul.
Voilà, il faut que le fournisseur d'accès, le fournisseur du SIGB se mette en contact avec Arte. Évidemment, ça coûte quelque chose, hein, mais il y a quelque chose qui est développé pour que votre catalogue et la liste des films qui est sur la médiathèque numérique en quelque sorte dialogue, et que cette liste soit intégrée. Et au fur et à mesure que Arte supprime des films, les notices disparaissent.
Il existe.
Alors,
et tout est dans le
chez Arte,
moment...
il y a au moins 10 fournisseurs différents qui travaillent avec Arte sur ces connecteurs.
Et tout est dans le moment où il y a une bascule entre le catalogue de la médiathèque et le catalogue d'Arte Vidéo. Ça dépend les relations entre la bibliothèque et Arte Vidéo, quoi. Au moment où la connexion est faite entre le catalogue de la bibliothèque et le catalogue d'Arte Vidéo. Donc des fois, il y a des films qui sont apparus sur la médiathèque numérique, mais qui ne sont pas encore sur notre catalogue. Enfin, des fois, il y a des décalages. Mais c'est vrai que sinon, elle est mise à jour à un moment ou à un autre.
En ce qui concerne peut-être la question sur les statistiques, alors j'avoue que je ne me suis pas encore posé la question de savoir si on pouvait, pour CVS, si on pouvait regarder film par film. Mais je vous avoue qu'au vu déjà des chiffres de consultation, je pense qu'on n'en est pas encore là en termes de problématiques. Pour vous donner une idée, donc je vous évoquais les 577 000 prêts de l'année dernière. Il y a eu 2540 vues de VOD l'année dernière et nous avons plus de 14 000 emprunteurs actifs et 525 usagers qui se sont connectés au service. Donc je pense que pour l'instant déjà notre souci à nous, ça va déjà être d'assurer la valorisation, la promotion de ce service et de le rendre peut-être facile à utiliser. Enfin,
pour l'offre Adavision, on a des stats mensuelles. Ça nous fait des jolis tableaux Excel. Donc à la fin de l'année, on compile tout ça et on compte les lignes. Et du coup, alors pour Grenoble, on est à 16 500 vues par an, environ. C'est stable là depuis plusieurs années. Et donc, il y a des films. Enfin, là, j'ai la liste du top 15 2016. Notre film culminant, il est à 450 vues. À peu près. Alors c'est un film local, donc qui est sans besoin d'identification. Et après, ils sont tous entre 200 et 100 vues par an, les 15 premiers. Voilà. Après, il y en a, je pense, qui sont jamais vus, mais ça m'étonne. Enfin, ils doivent être assez rares. Je pense que la moyenne est à... Enfin, je sais pas, en fait. Mais c'est plus qu'un DVD, en tout cas, parce qu'un film qui est vu 106 fois ou 144 fois dans l'année... n'aurait pas eu cette vie-là en support physique et en bibliothèque.
Autrefois, les bibliothèques municipales, enfin les bibliothèques, achetaient à la DAV, par exemple, 3000 ou 4000 films avec consultation illimitée. Aujourd'hui, avec la VAD, soit on a un grand catalogue comme la médiathèque numérique de 3000, 4000 films, mais comme on paye à l'unité, on restreint la consultation. Soit on achète à la DAV des fichiers avec consultation illimitée, mais ça coûte tellement cher que l'on restreint la collection à 600 ou 700 titres. Donc, est-ce qu'on peut dire que la vidéo à la demande a rendu le film en bibliothèque beaucoup plus coûteux ?
Alors, les prix Adavision d'un film sont pas bien plus chers qu'un DVD, hein, au final. Un film qu'on achète pour 5 ans, il est à peu près à 50 euros. Enfin... C'est pas, C'est,
alors dans ce cas-là, pourquoi vous n'avez que 600 ou 700 titres à Davision?
Parce que moi, mon budget ne me permet pas, j'ai pas un budget... moi, j'ai 7000 euros là, cette année pour acheter des films, donc je vais en acheter 180 dans l'année. Enfin, voilà, ça va être à peu près ça. Si j'avais un énorme budget, je pourrais acheter beaucoup plus de films, mais...
voilà. Peut-être un peu ce qui est un peu paradoxal, c'est que plus on permet à des lecteurs d'être abonnés, plus on va payer cher les films. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, voilà, pour nous. Si vous prenez la licence la plus basse, donc 3000 lecteurs, en effet, le prix du film, ça va être de l'ordre de 50-60 euros. Après, il y a d'autres fourchettes où ça peut monter jusqu'à 120 euros pour un film. Mais ou même Marie, 180, je ne sais plus exactement.
Marie, ça s'aligne sur le coût du DVD, mais il y a quand même le paiement, l'allocation de MediaLib.
Ouais, oui, mais elle n'est pas très élevée, la plateforme elle-même.
Elle est, attends, j'ai noté...
180, enfin, le premier prix, c'est 150 euros par mois. Et puis,
Nous, on est à cette année-là, 2017, l'abonnement à la plateforme MediaLib, pour l'année, c'est 4300 euros. Et moi, j'ai un budget d'acquisition de films à Davision de 7000 euros, donc ça fait un budget de 12000 euros.
Parce qu'avec la plateforme, on paye à la fois l'espace de stockage des films et la bande passante pour regarder le film. Donc c'est pareil, plus il y a de lecteurs qui vont regarder des films et plus on aura besoin de bande passante.
Si je peux juste... Alors c'est pas une réponse exactement à votre question, mais ça... Il y a une réflexion que je me fais assez souvent, c'est effectivement, ces ressources numériques nous coûtent assez cher. Dans le cadre de Grand Angoulême, on est à 25 000 euros par an. Je trouve, si on continue à développer le système tel qu'on le fait actuellement, chaque bibliothèque ou chaque groupe de chaque réseau de bibliothèques se lance un peu, en tout cas dans la région dans laquelle j'exerce, se lance de manière non coordonnée dans une offre de vidéos à la demande. Au final, un usager peut être éventuellement abonné à plusieurs bibliothèques, abonné peut-être trois fois à la médiathèque numérique que chaque bibliothèque va avoir payé en partie. Je pense qu'il y a, et ça fait écho à l'intervention de Madame Salson tout à l'heure, je pense que la question de la mutualisation, de la coopération, notamment sur les territoires, me paraît extrêmement importante et vraiment à creuser. Au niveau de la Charente, qui est un territoire extrêmement rural, mais alors dans lequel les gens circulent en voiture, font des kilomètres en permanence. Enfin, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Effectivement, on peut. Nous avons des usagers qui habitent à 50-60 kilomètres, et c'est pas un problème. Le théâtre d'Angoulême a la même chose. Du coup, je me demande même vraiment à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'il y a quelque chose, pour prendre l'exemple de ce territoire, sur lequel il faudrait vraiment travailler.
Peut-être juste aussi un dernier élément, il y a effectivement la question économique et du modèle économique qui est vraiment pas négligeable, mais il faut ajouter à ça que chaque plateforme ne se suffit pas forcément à elles-mêmes. Donc, elles sont toutes complémentaires et en plus, elles sont complémentaires des DVD. Donc c'est aussi ça le problème, c'est qu'on choisit une plateforme, mais on n'est pas forcément satisfait à 100% du contenu qu'on va trouver dessus. Et en même temps, on peut pas s'abonner à toutes les plateformes. Oui,
il y a une chose que je voudrais qu'on précise, c'est que il y a l'offre à Davision, sauf erreur de ma part, est la seule qui vous permet d'ajouter vos propres films, puisque les deux autres sont fermés. Oui. Ce qui, évidemment, dans les motifs de votre choix, je pense, a été aussi central, évidemment. Et vous aussi, puisque les productions de l'université, ce qui vous permet de les mettre en ligne, c'est aussi... non ?
C'est pas aussi simple. Alors nous, le problème, c'est qu'on a déjà une bibliothèque numérique où il y a des contenus audiovisuels qui sont en effet les colloques, les conférences, les archives audiovisuelles. Et sur la plateforme VOD, on a décidé de mettre en ligne les films d'étudiants, donc réalisés dans le cadre de leur cursus.
Et c'est, oui. Mais voilà.
Mais donc c'est votre choix.
Oui, oui, bien sûr.
En fait,
oui.
Parce que alors que vous n'auriez pas pu faire ce choix avec l'offre Arte, enfin l'offre médiathèque numérique, ou ni si mes informations sont bonnes avec CVS. D'accord. Donc c'est assez important, je pense, du point de vue d'une médiathèque, d'une part de maîtriser son offre. On a vu que vous ne maîtrisiez pas forcément ce qui était mis en évidence, de maîtriser son choix et également de pouvoir l'augmenter, éventuellement avec en particulier des offres locales ou des offres issues de l'institution elle-même.
Et c'est vrai voilà. Que ce dont on a du mal à, enfin, ce qu'on a du mal à savoir, c'est est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de bibliothèques qui vont s'abonner, notamment à Davision, parce que nous on aimerait bien voilà, qu'on soit plus nombreux, mais est-ce que ça va faciliter les rapports avec les ayants droit et leur permettre d'étoffer leur catalogue ? Enfin, j'imagine que oui, mais voilà. Donc on ne peut qu'encourager les bibliothèques à le faire. Et, parce que voilà, c'est vrai que enfin, nous au départ... Enfin, moi, je m'imaginais qu'on allait proposer ce qui marchait, en fait. Et donc, ce qui marche pour les étudiants, c'est les classiques du cinéma et c'est les films qui viennent de sortir et qu'ils n'ont pas eu le temps de voir. Et les séries télé, voilà. Donc, parmi les classiques du cinéma, il y en a. Mais, par exemple, les classiques américains, ils ne sont pas là. Et, parce qu'ils n'ont pas réussi à négocier avec... voilà. Mais...
Bonjour. Bonjour, je travaille à la médiathèque de Bagnolet et nous avons fait le choix de prendre les yeux doc pour une raison très simple, c'est que en regardant toutes les plateformes qui existaient, elles avaient un coût énorme que les médiathèques ne peuvent pas forcément se permettre, d'autant que comme vous l'avez dit, effectivement ça va en complémentarité avec les DVD, donc c'est pas l'un ou l'autre. Deuxièmement, parce que avec les yeux d'oc, on avait donc le catalogue de la BPI et que c'est celui que nous avions envie de défendre depuis toujours. Troisièmement, parce que en termes de financièrement, c'est quand même pas extrêmement cher, me semble-t-il. Nous, on a fait le choix d'avoir la première offre qui est à 800 visionnage pour une ville de 35 000 habitants, enfin, puisqu'on choisit effectivement entre le nombre d'habitants ou d'inscrits et les visionnages possibles. On a fait le choix du coup de faire une possibilité de 10 visionnages par lecteur et par mois. Alors ça tâtonne un peu parce qu'évidemment c'est les tout débuts et on n'a pas tout complètement bien au fait avec effectivement les yeux doc et les notices Unimark, on les attend, etc. Mais je suis sûre qu'on va les avoir et que tout va fonctionner bien mieux au fur et à mesure. Il n'empêche que ça nous permet de faire des projections publiques effectivement sans aucun coût. Quand on regarde les nouveautés, par exemple, il y a le sociologue et l'ourson qui, si on l'avait eu par la DAV, avec la DAVision ou Europa DAV, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Donc, je trouve que pour faire un test de VOD dans les médiathèques qui n'ont pas forcément énormément de budget et qui tentent quand même l'idée de la VOD, les yeux doc, je vous le recommande.
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience sur les yeux doc. Je vous propose qu'on passe... Je vois plus de m'enlever. Je vous propose qu'on passe à la partie qui détaillera un petit peu plus les questions de médiation et de valorisation et des usages, donc du succès ou non de ces offres, ce qui pourra aussi reposer éventuellement la question du modèle économique, de la gestion du succès en VOD n'est pas forcément évidente. Donc selon le même principe que tout à l'heure, je laisse mes collègues.
Alors, en effet, c'est pas forcément évident de faire connaître à déjà nos collègues et puis nos publics qu'on a cette offre-là. Donc, en termes de médiation, il y a plusieurs. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs parties. Il y a déjà la médiation pour faire connaître l'offre en elle-même et après sur la plateforme pour mettre des films en avant. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a deux parties là. Donc, sur la plateforme elle-même, sur CinéVOD, voilà, si tu te remets sur la page d'accueil. Donc, on a plusieurs façons... non, ça, c'est une image, en fait. Faut se mettre... là, par exemple, autour de Jim Jarmusch, donc c'est Ça, c'est des sélections qu'on fait nous, enfin voilà, avec les films qui sont disponibles sur CinéVOD. Voilà, j'ai un de mes collègues qui a fait cette sélection avec un petit texte qu'on peut voir en cliquant. Bref, voilà, on peut faire des sélections aussi en dessous, les sélections du mois. Donc là, bah, c'est plutôt les dernières acquisitions. Sur le côté, là, sur la droite, vous voyez les chroniques. On peut chroniquer des sélections de films. Ça, c'est des films locaux qu'on a rentrés il n'y a pas longtemps. Et puis, tout en bas, il y a aussi des recommandations avec un petit système d'étoiles. 5 étoiles, j'ai beaucoup aimé. Je mets une petite phrase. Pourquoi ? Donc ça, c'est en interne, c'est nous, mes collègues et moi-même, qui éditorialisons tout ça. Voilà. Donc ça, c'est pour une mise en valeur. Ensuite, c'est en fait, on se rend compte que c'est les films qu'on met en avant qui sont vus le plus aussi. Enfin, à part quelques exceptions, mais sinon, les gens globalement regardent la page d'accueil, regardent un peu autour, mais voilà. Ça permet des relais sur les pages Facebook, la page Facebook des bibliothèques de temps en temps. Hop, avez-vous vu sur CinéVOD et une petite chronique ou un des films ou des sélections qu'on a faites. On a un portail numérique à Grenoble depuis quelques mois, la Numothèque, sur laquelle, pareil, on peut mettre des choses en valeur, faire ressortir des articles, des chroniques, des sélections. Donc voilà, ça c'est pour la partie éditorialisation du site en quelque sorte. Ensuite, pour faire connaître l'offre en elle-même, on a des petite plaquette maintenant Numothèque, donc portail numérique avec l'offre, etc. C'est des choses dont on est censé parler au moment où on abonne les gens. Je pense que on ne fait pas tous de la même façon parmi mes nombreux collègues. Donc voilà, c'est pas évident. Après, pour les films locaux, je peux me permettre de faire des mailings un peu ciblés sur certains sujets. Voilà, je viens de rentrer un film, par exemple, sur la première descente dans une grotte à moins 1100 mètres. Bon, bah voilà, j'ai mailé avec le lien direct sur le film à des clubs de spéléo de la région qui, du coup, l'ont trouvé. Sinon, ils ne l'auraient jamais vu et ils n'auraient jamais su qu'on avait ça, alors qu'ils étaient absolument ravis de découvrir ce film qui était introuvable depuis des années. Donc voilà, il y a plein de petits biais comme ça, c'est un peu du bricolage, hein, on va pas se mentir, mais qui font que petit à petit, et par le bouche à oreille, et par de la com, et par voilà, on arrive à trouver un public. Après, en termes de projection, ben nous, on n'en fait pas. on projette pas de films qui sont présents sur CinéVOD. On peut mettre en valeur des réalisateurs locaux, justement, qu'on a dans Vue d'ici, qu'on fait de temps en temps des soirées mises en valeur de Pierre Garbolino, par exemple, qui est un réalisateur grenoblois. Des choses comme ça. Et puis, lors des ateliers numériques qui se passent dans les bibliothèques, tous les mois, voire plusieurs fois par mois, dans différentes bibliothèques de Grenoble, il y a un moment avec un médiateur informatique qui présente les offres numériques de la bibliothèque, donc CinéVOD, mais aussi Bibook pour les livres, et puis après, un Detouch pour la musique, etc. Et c'est le moment où les gens viennent et posent leurs questions, viennent avec leurs tablettes, ils n'arrivent pas à se connecter, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc voilà, c'est des ateliers un peu individualisés et qui permettent de... Voilà, de faire connaître et d'aider les gens, de les accompagner dans la découverte de notre Numothèque.
Donc, en ce qui nous concerne à l'Alpha, donc, bon, je l'ai dit, puis je partage ce que vient de dire Marion. Faire connaître le service reste un défi. Et il y a un véritable travail de promotion de manière générale. Alors après, il y a aussi des détails un peu simples, hein, nos sites internet, nos portails, si on peut revenir sur le portail de l'Alpha, et même si on peut sortir de la bibliothèque numérique. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, si vous avez l'envie d'aller voir, avant de trouver la bibliothèque numérique sur le site de l'Alpha, il faut bien chercher quand même. Ça, le bibliothécaire reste quand même un bibliothécaire. Donc on le trouve là, mais après il faut comprendre qu'il faut s'abonner, il faut voir, vous savez pas comment cliquer, enfin c'est un peu compliqué. L'accès le plus simple est par votre compte lecteur, là vous y avez accès, mais voilà, merci pour la démonstration. Donc ça reste un vrai travail, un vrai défi. Après, à l'Alpha, on m'a demandé aussi si j'ai été sollicitée, c'était aussi en tant que bibliothèque troisième lieu. Donc là, il y a un vrai paradoxe. On est en train de parler de vidéos en ligne, à distance, et comment on fait vivre un lieu de convivialité. Pour l'instant, on n'a pas la solution, même si je pense qu'énormément de choses doivent être possibles. Peut-être avec... ça veut dire aussi qu'il faut s'équiper... des moyens adéquats, je pense à des tablettes, enfin des outils un peu nomades dans le lieu. Parce que ce qui est certain, c'est que l'offre de cinéma sur place reste un succès. Nous avons à l'Alpha une dizaine d'écrans qui sont dédiés uniquement à du visionnage, 4 dans l'espace créé qui est plus spécifiquement dédié aux enfants. Aux adultes, pardon, 4 dans l'espace enfant, 2 dans le monde comprendre, dédié du coup plutôt au documentaire. Mais en même temps, chacun peut amener le DVD qu'il veut, demander au personnel de voir. Et ces espaces sont occupés en permanence, et pas que par les enfants dans l'espace enfant. L'état des sièges, on retrouve des miettes de chips en permanence, parce qu'on peut manger tout dans l'Alpha. Donc nos fauteuils sont utilisés comme des canapés. Et une des plus jolies anecdotes qu'on ait pu avoir, c'est quelqu'un un jour qui est venu s'inscrire en disant ça y est, maintenant j'ai un chez moi, je peux enfin emprunter. Et avant, il passait ses journées chez nous, du coup. Donc c'est évidemment pas à la BPI que je vais dire que ça a cette importance, mais donc je pense qu'il y a des choses à faire, y compris en VOD sur place, avec les enfants, sur de la mise en espace, des tablettes. Mais après, il reste un défi qui est le défi de faire évoluer le métier de bibliothécaire. Et ça veut dire que la médiation, qui déjà on prend peu à peu de plus en plus de place et s'inscrit comme une évidence, mais qui n'est pas non plus un réflexe pour 100% de nos collègues, et la médiation numérique, c'est une terre inconnue. Il y a juste une expérience intéressante qu'on a vécue récemment qui, je trouve, ouvre des perspectives. Nous avons reçu un jeune stagiaire, enfin pas si jeune que ça d'ailleurs, qui venait et qui voulait faire un stage de community management chez nous pour booster notre page Facebook, qui était une gentille page Facebook, pas si mal, mais voilà. Donc nous, on s'est dit super pour tout ce qui est promotion, communication, et on n'avait pas... Moi, je n'avais pas pensé à la médiation numérique. Et de fait, en fait, il nous a l'expérience, vu la manière dont il a emmené les collègues derrière lui. En fait, on peut mêler complètement promotion et médiation autour des collections en même temps. Là encore, si jamais vous avez envie d'aller voir la page Facebook de l'Alpha, alors faites attention, il y en a une officielle, une pas officielle. Mais bon, la pas officielle, elle vit pas beaucoup, donc on la repère assez vite. Puis il s'y passe vraiment pas grand chose de bibliothéconomique de dessus, donc vous devriez la repérer. Mais du coup, les collègues se sont emparés de beaucoup de choses. Donc là, ils ont fait un concours de Sleeve Faces, chose que je ne connaissais absolument pas. Je ne sais pas si certains connaissent, c'est l'idée de prendre un livre ou un CD, un disque avec une illustration, une image, et de tête humaine a priori, et de se faire photographier comme si notre tête devenait la couverture du livre. Ça, c'est du buzz, c'est de la promotion, mais c'est aussi de la médiation. Parce que du coup, ont été sorties des collections tout un tas d'œuvres qui n'en seraient pas sorties. Ont été sorties des collections, des choses aussi qui... moi, j'aime bien cette façon de sortir des collections, des choses de manière aléatoire. Parce que ça renouvelle le genre. Si ces collections sont là, c'est qu'elles ont un intérêt. On ne les aurait pas achetées sinon. Mais en prenant un autre biais, on s'autorise l'éclectisme, on s'autorise aussi là en l'occurrence à valoriser une œuvre pour la qualité graphique de sa couverture. C'est déjà pas mal. Après, ce qu'il y a dedans, c'est autre chose. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à tester, mais je pense qu'il y a, c'est vraiment un beau chantier à développer.
Donc, en matière d'éditorialisation, nous on a débuté récemment, donc comme je le disais, il y a 6 mois, donc on a fait des choses assez basiques, c'est-à-dire qu'on fait une sélection thématique par mois et on choisit une douzaine de films parmi les nouveautés. Ce qu'on peut remarquer, c'est évidemment que les films qui sont présentés sur la première page sont parmi ceux qui sont le plus regardés. Donc c'est bien, c'est gratifiant pour le travail réalisé. Donc il y a une personne qui travaille sur vraiment l'éditorialisation de la plateforme à peu près entre un tiers et mi-temps, non un tiers plutôt, enfin entre les deux, que sur cette tâche-là. On a la chance d'avoir recruté quelqu'un qui était formé en communication, donc ça aide parce qu'elle fait des super newsletters qu'on peut envoyer ensuite aux étudiants, aux enseignants, etc. Le problème est le même, c'est faire connaître voilà, un service en ligne dans un espace physique. Donc on essaye d'en parler quand on est en service public. Alors quand on le présente, on a des petits flyers, on propose le flyer, les étudiants, les enseignants disent super, c'est une super initiative, on les revoit quelques jours après, on leur dit alors, ah ben non, je ne l'ai pas encore regardé. Bon, ben, on verra dans 2-3 semaines. Voilà, on a l'impression qu'en fait c'est une offre qui enchante le monde, mais ça va prendre du temps de l'installer dans les habitudes de consultation de documents, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que la communication est essentielle parce qu'on s'en aperçoit assez vite, c'est-à-dire qu'on a diffusé l'info sur une lettre d'info qui était envoyée à toute l'université. Les étudiants, ça les touche pas trop. Par contre, le lendemain, on avait, je sais pas, peut-être 30, 40, non, je crois 70 demandes de personnel et d'enseignants de l'université. Et alors que d'habitude, on en a un toutes les 3 semaines, quoi. Donc voilà, c'est des petites choses assez essentiel, mais il faut les vivre pour y croire. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ça rend un grand service aux étudiants qui suivent des formations à distance. Donc à Paris 8, il y a 5000 étudiants donc, inscrits dans ce qu'on appelle l'Institut d'études à distance, dont beaucoup sont inscrits en psychologie. Donc au début, on se disait, mais pourquoi tant de psychologues sont intéressés par la VOD ? Et en fait, c'est parce que ce sont des étudiants qui font leur formation à distance. Donc on va évidemment essayer de développer, ça c'est la prochaine thématique, donc des films pour les psychologues sur le guérir l'âme et le corps, je crois que ça s'appelle. Sur les usages, ce qu'on a aussi remarqué, c'est que les films n'étaient, enfin, d'après les statistiques, c'est des fois un peu difficile d'extrapoler, mais on a remarqué que les films étaient en moyenne vus assez peu de temps, c'est-à-dire que ça peut varier de 1 minute à la totalité du film, mais la moyenne, c'est 30-40 minutes du film. Donc soit les utilisateurs zappent beaucoup, soit ils regardent les films en plusieurs temps, on ne sait pas trop. Et je ne sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, c'est une donnée qui... c'est vrai que quand on a... Nous, on prête 3 DVD à la fois. Quand on a 3 DVD, en général, on les regarde en une semaine. Pour la VOD, on sait qu'on a le temps de regarder, donc on se permet peut-être plus de butiner parmi l'offre. Qu'est-ce que je peux dire de plus aussi sur la consultation sur place, puisque je vous disais que la consultation des DVD est importante à Paris 8. Donc je me tourne vers Bernadette Furcy, qui travaille même maintenant à la BPI et qui est donc à l'origine d'un projet de réaménagement de l'espace audiovisuel. Et quand elle a commencé à penser à ce projet, il y avait une baisse de la consultation sur place. Et le fait d'avoir mis des écrans plus grands, des fauteuils où on est mieux installé que sur des chaises, en fait, ça a vraiment boosté les stades de consultation sur place. Et évidemment, les étudiants, on le sait, les étudiants sont là dans l'université, mais il n'y a pas que les étudiants qui étudient le cinéma qui viennent voir des films, parce qu'on propose évidemment maintenant une offre assez grande, et ça sert aussi de fonds de loisirs, comme ça peut être le cas en bibliothèque territoriale. Et sur la consultation sur place, on n'a pas d'offre. Donc c'est un peu aussi paradoxal, c'est-à-dire qu'on dit on a une offre de VOD, mais on ne peut pas vous la montrer parce que pour une question de sécurité du réseau, on n'a pas réussi à l'installer sur les postes informatiques qui sont mis à disposition dans toute la bibliothèque. Et on a aussi des téléconnectés, mais c'est trop compliqué parce qu'on a une télécommande simplifiée et donc il n'y a pas de clavier, donc on ne pourrait pas faire de recherche. Donc ce qu'on voulait, c'était mettre au moins un écran à disposition à cet usage exclusif, mais pour des questions budgétaires, on nous a dit qu'il faudra attendre le mois de septembre, peut-être. Voilà, donc, c'est toujours un peu les mêmes questions, les mêmes réponses, mais on avance tout doucement.
Et donc pour finir, quelques petits points sur l'offre d'Arte VOD, donc juste pour dire que, donc pour ceux qui sont abonnés le savent déjà, que l'éditorialisation est quand même très limitée, qu'elle se fait sur des cycles en bas de page et qui sont pas nécessairement bien visibles pour les lecteurs. Donc c'est vraiment un des gros défauts, à mon sens, de cette plateforme. Et donc, quand il y a éditorialisation, valorisation, ça se fait souvent à l'extérieur de la plateforme, donc que ce soit sur le site, sur les réseaux sociaux, etc. Et sur tout ce qui est communication autour du service. Et ce qui pose aussi indirectement le problème du modèle économique, puisque, donc là, c'est les échos que j'ai eu auprès des autres bibliothèques universitaires qui adhèrent au service. Le modèle économique fait peur, puisqu'on a peur de dépasser le quota, on a peur soit d'avoir sous-évalué, soit d'avoir surévalué le nombre de visionnages. Donc, ce qui fait que, bien souvent, quand on a peur d'avoir sous-évalué, on a peur de trop communiquer autour du service. Donc, on valorise pas trop, on n'en parle pas trop, et au final, l'offre marche pas. Donc, c'est un cercle vicieux, oui, plutôt vicieux, qui fait que sans valorisation, il n'y a pas de les usagers ne regardent pas de films, et s'ils ne regardent pas de films, vous avez dépensé de l'argent pour rien. Donc, voilà, c'est un des soucis qu'on peut vraiment pointer, à mon sens, pour tous les services qui sont en paiement à l'acte comme CVS et médiathèque numérique. Et dernier point, donc avant de vous laisser la parole sur Arte VOD, donc comme je vous le disais, la projection, donc c'est une projection qui est possible dans l'ensemble des bibliothèques. Et le problème, alors je pense que c'est partagé dans beaucoup de bibliothèques, mais en particulier dans les bibliothèques universitaires. Rares sont les bibliothèques universitaires, notamment à Paris, où tout le monde est contraint par l'espace et où la priorité est donnée aux places pour les usagers. Pour nos étudiants, rares sont les bibliothèques qui disposent d'une salle de projection. Donc, on a des salles qui pourraient faire office d'eux, mais elles sont dans l'ensemble de l'université et pas dans l'ensemble de la bibliothèque. Donc de fait, ce système de valorisation par les projections sur place, bien souvent, on ne peut pas le mettre en œuvre. Voilà. Ça, c'était le dernier petit point. Et donc, sur ces questions de médiation et de valorisation, il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions, en sachant que, bien évidemment, en une heure et quart de temps, nous n'avons pas pu épuiser toutes les problématiques liées à la vidéo à la demande, mais n'hésitez pas.
Si je peux me permettre, il y a quand même quelque chose aussi qui me frappe, mais que je connaissais déjà, mais par rapport à l'offre de la médiathèque numérique, je ne me rappelle pas bien comment c'est pour CVS, mais c'est l'habillage tout simplement, parce que je trouve que là, clairement, la bibliothèque, elle est vraiment le relais vers l'offre de la médiathèque numérique. C'est même pas le site de la médiathèque.
Alors que l'exemple à Grenoble, bon, on est vraiment sur le site de la bibliothèque de Grenoble.
Non, on n'est pas sur le site.
Mais l'habillage.
Regarde. Ah oui, bah, on peut changer l'habillage, voilà. Mais ça se ressemble si je regarde Paris 8 et Grenoble.
Oui,
c'est exactement le même. On a changé la photo en haut.
Ouais, je veux bien.
Pour la médiathèque numérique, effectivement, l'habillage global reste le même, quelle que soit la bibliothèque qui a souscrit au service. En revanche, il est possible d'ajouter. Alors, ça, je ne sais plus si c'est sur cette version ou sur celle qui ne va pas bientôt être créée, mais il est possible d'ajouter le logo de la bibliothèque. Mais globalement, il n'y a rien d'autre qui distingue. Là, c'est le contest, donc ce n'est pas forcément ce que.
Et pour Paris 8 et Grenoble, et c'est la même.
Oui, regarde, ça, c'est Paris 8, et ça, c'est. Ça change.
On a changé les bandeaux. Ouais.
Voilà. Mais sur le côté.
D'accord.
En fait, ils nous proposent un canevas et après, on dispose ce qu'on veut. Enfin, on fait les sélections qu'on veut, mais le canevas est quand même assez rigide avec des petites incohérences qu'on aimerait bien changer. Mais ils nous promettent une nouvelle version bientôt plus adaptée à nos besoins. Mais alors, l'avantage, c'est que c'est assez facile quand même à prendre en main. Enfin, on n'a pas besoin d'être informaticien pour y arriver. Mais c'est, voilà, on doit rentrer dans le moule, quoi.
Et en ce qui concerne CVS, on a quand même effectivement possibilité, donc c'est limité, mais on peut quand même mettre un bandeau qui est complètement à l'identité de l'alpha. Et ce que je n'ai pas dit quand même, c'est qu'il est possible quand même de faire de l'éditorialisation. Nous en faisons assez peu, mais nous en faisons quand même un peu, alors même si Ballerina arrive quand même en tête. Mais en dessous, voilà, là vous avez des contenus qui sont mis en avant, sélectionnés par les bibliothécaires quand même.
Et je voulais juste rajouter quelque chose sur la bibliothèque numérique de CVS, sur lequel nous sommes, nous, depuis plusieurs années maintenant. On est sur le réseau Pleine Commune et on y est aussi. C'est quand même la possibilité d'avoir des droits négociés pour les projections. Qui sont forfaitaires. Alors de tête, c'est 170 pour un long métrage et 90 pour un court métrage, qui permet de faire, notamment quand il y a un grand réseau, d'où l'intérêt de la mutualisation dont vous parliez, de faire une projection par médiathèque pour le tarif indiqué. Donc effectivement, si on a 30 médiathèques et qu'on paye 100 €, bah voilà, ça revient pas cher par médiathèque. Donc voilà, nous, c'est une pratique qu'on a mis en place depuis plusieurs années, qui permet de valoriser à la fois la plateforme et aussi de former les collègues et de permettre aux collègues de s'approprier les ressources numériques.
Il y a quelqu'un derrière vous ?
Il est
non,
à laquelle part des particuliers, c'est 3,50 € d'abonnement. Donc moi, je trouve que c'est plus difficile à. Ça nous coûte très très cher.
Et vous parlez de.
Nous, on est en train d'étudier justement la question. Et Universiné, en fait, on peut adhérer personnellement pour 3,50 € par mois.
Oui.
Donc, ce qui est quand même pas très cher si on adore le cinéma. En province, où on n'a pas beaucoup de choix de cinéma et de films un peu récents, les cinéphiles, ils peuvent s'abonner. Et justement, le fait qu'on puisse éditorialiser par CVS ou l'autre offre, même si c'est pas assez à votre goût encore, mais malgré tout... je trouve que c'est quand même... Là, on a plus notre rôle. J'ai l'impression que, parce que quand c'est Universiné, on est juste une plateforme, un lien.
Ouais.
Il passe par nous et c'est nous qui payons pour vous. C'est comme le kiosque, en fait, pour la presse. Ça sert qu'à ça. Alors, je trouve que c'est quand même bien d'avoir aussi, de mettre en avant les films qu'on veut, de faire des thématiques, de faire des projections négociées. Bon, c'était juste mon...
Oui, non, mais c'est clairement le défaut de ce type de plateforme. Après, pour tout ce qui est médiation, c'est par là justement que qu'on peut valoriser certains films. Mais la médiation qui se fait pas nécessairement sur la plateforme. Oui.
Oui, alors moi je me demandais, parce que c'est vrai que je trouve ça super la proposition d'Adavision de proposer en tout cas de constituer une collection, parce que nous en tant que vidéothécaires, on n'est pas associés, du coup on a l'offre médiathèque numérique et c'est assez frustrant en tant que vidéothécaire de ne pas constituer de collection. Par contre, je m'interroge en fait sur la proposition d'Adavision. Comment ils justifient que leur offre numérique n'est pas à la hauteur de leur catalogue DVD ?
Alors, je pense qu'il y a une histoire de chronologie des médias, justement. C'est ça, vous confirmez. Je ne sais pas vraiment le détail, honnêtement. Mais c'est les droits sur la VOD ne sont pas les mêmes droits que sur le film support DVD, quoi. Ils n'arrivent pas à négocier, voilà, c'est ça. Je ne sais pas.
Mais oui, parce qu'ils sont proposés quand même.
Ils ont assez peu de clients hein, encore. On n'est pas nombreux encore à être abonnés à Adavision. Et je sais que nous, quand on était allés les voir il y a maintenant un an, ils étaient tout contents d'avoir réussi à négocier avec Gaumont, par exemple. Donc il y a pas mal de films français des années 60, 70, 80. Voilà, je pense que ça prend du temps. Enfin, même si c'est vrai qu'ils existent depuis un certain nombre d'années, ils ne proposent pas. Enfin, après, il y a une question financière, quoi. Combien ils reversent aux ayants droit, je ne sais pas. Enfin.
Oui, ça intéresse peut-être. C'est le même cas pour Médiathèque Numérique, j'imagine.
Comment ?
Médiathèque Numérique arrive à être plus en phase avec les catalogues DVD, par exemple, que
Oui, mais Arte, c'est une chaîne télé. Adavision, il propose son offre qu'à des bibliothèques. Ils n'ont pas d'autres clients que nous.
Oui. Oui. Quand même, là, il y a une petite confusion parce qu'on parle de médiathèque numérique, on parle que de l'offre Arte Universiné. Donc, c'est pas la même offre qui est offerte au grand public et qui est négociée pour les bibliothèques. C'est pas la même négociation de droit. Et dans la médiathèque numérique, il n'y a pas que Arte et Universiné, donc c'est un bouquet. Et notamment donc les yeux d'oc qui ne ressemblent pas du tout à ça. Je ne sais pas si on peut le voir aussi. Ça reste une offre fermée, mais qui est éditorialisée et qui est différente de l'offre commerciale.
Je vous avoue qu'au moment des négociations, c'était plus rude avec Arte que pour les yeux d'oc. Donc, du coup, je.
Oui, pour rebondir, effectivement, si l'offre de la vision n'est pas plus riche, c'est pour les deux raisons. C'est évidemment la chronologie des médias, parce que comme il s'agit d'une offre, ce qui est une de ses qualités, une offre forfaitaire, alors que Arte et CVS, c'est une offre en paiement à l'acte, donc on est à 4 mois. Donc on a effectivement 32 mois de décalage, ce qui est énorme pour ce genre d'offre. Et puis l'autre raison, c'est ce que pointait Marianne, c'est qu'effectivement, c'est difficile de négocier avec les ayants droit quand on a relativement peu de clients, donc forcément relativement peu de remontées de recettes à proposer. Donc voilà, pour le DVD, en gros, la DAV a réussi à négocier dans son histoire avec l'immense majorité des ayants droit. Et pour la VOD, bah, il commence. Et donc, ça repose effectivement sur le succès de la proposition, dont on voit, je crois que c'est tout de même le modèle qui est en théorie, je parle en théorie, puisque il y a d'autres qualités aux autres modèles, mais en théorie, se rapproche le plus du modèle qui correspond aux demandes des médiathèques, de pouvoir constituer son fonds, de pouvoir le valoriser, etc. Mais évidemment, il pose un certain nombre de problèmes qu'on espère le voir améliorer dans les années à venir. Quant à la question, parce que je suis assez sensible à ça, la question effectivement de savoir si on n'est pas simplement, quand on est une bibliothèque et qu'on s'abonne à Arte, à la médiathèque numérique, si j'exclus bien sûr les yeux d'oc, qui sont des offres spécifiques, mais évidemment ça n'a de sens. Ça n'aurait de sens que si, je m'excuse Alicia, mais que si on est capable de faire une animation sur place, que si on est capable de faire une vraie médiation à partir de l'offre. Parce que s'il s'agit simplement d'être le kiosque, le transmetteur de l'offre commerciale déjà accessible en ligne, effectivement, ça n'a pas de sens de la part de la médiathèque. Ça peut avoir un sens si on est capable de faire, en gros, ce qu'on appelle de la curation sur cette offre-là, qui est malgré tout aujourd'hui la plus riche. Voilà. Donc je suis désolée Alicia, si on ne peut pas le faire, c'est vrai que ça...
Après, il y, y a peut-être aussi quelque chose à souligner, c'est que du côté des BU, on est de toute façon, quel que soit le support, on est un peu esclave de ce type de plateforme. Les éditeurs scientifiques, c'est pareil, l'accès aux revues électroniques, c'est pareil. Donc, c'est peut-être un peu triste de finir sur ça, en bibliothèque universitaire, on choisit de moins en moins. Voilà. Sur ce.
Mais on résiste un peu quand même.
Voilà. Du coup, il faut réinventer d'autres choses. Mais effectivement, sur le choix des contenus, on est de moins en moins libre de ce qu'on propose à nos étudiants et à nos enseignants-chercheurs. De toute façon, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette table ronde. Donc, je vous remercie et je repasse la parole à Arlette. Je ne sais pas comment ça se passe.
Je vais simplement annoncer que, bien entendu, au terme d'une journée cinéma, tout se termine par une projection. Et donc, je vous invite, chers collègues, si vous en avez encore le temps, à rester avec nous. J'ai choisi pour vous un film qui s'appelle « L'esprit de l'escalier » de Bernard Bloch. C'est une production « L'œil sauvage » et c'est un court-métrage d'une vingtaine de minutes. Et ce film se déroule dans un immeuble parisien et plus particulièrement dans l'escalier, et vous présente la réalisation d'un livre d'artiste. Il va y avoir quelques minutes avant le début de la projection, étant donné qu'on doit débarrasser la scène, donc à tout à l'heure.